à tous, c'est la rentrée d'Ondes Positives aujourd'hui et je suis ravie de vous retrouver. Vous connaissez bien maintenant notre rendez-vous hebdomadaire consacré aux bonnes nouvelles, aux messages positifs et à tous les optimistes de Midi-Pyrénées et d'ailleurs aussi. Après les vents destructeurs de la tempête du début de mois, nous vous proposons un vent d'optimisme, un souffle positif, une bourrasque de bonnes énergies sur les ondes de CFM. Et pour démarrer la saison, j'accueille Catherine Chaubet. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour Dorothée, et bonjour à tous.
Catherine, tu es tarnégaronnaise, tu vis à Kampsas,
oui.
Et tu es shiatsuki.
Oui, tout à fait.
Alors, juste pour commencer, explique-nous ce que ça veut dire shiatsuki.
Donc c'est la traduction japonaise de praticien ou praticienne en shiatsu. Donc c'est deux mots, le shiatsu et le ki. Le ki, c'est l'énergie en japonais et chi en chinois. Et shiatsu, c'est composé aussi de deux mots, puisque les chinois et japonais, comment dire, leur écriture se fait par idéogramme. Donc c'est le chi et le atsu. Le chi, ce sont les doigts, et atsu, les pressions. Donc,
d'accord.
C'est une technique. Le shiatsu est une technique d'entretien corporel par pression des doigts sur l'ensemble du corps et des méridiens de l'acupuncture.
D'accord.
Il permet d'agir à titre préventif ou curatif. Ben, donc pour prévenir les maladies, soulager les troubles chroniques, les petits bobos.
Bon, nous aurons l'occasion d'en parler pendant l'émission. Alors, je vais lancer ton message positif, qui est le suivant. Retrouver confiance en soi et en la vie. Alors, puisque tu utilises le verbe retrouver, j'en déduis que cette confiance en toi et en la vie, tu l'avais perdue.
Oui, tout à fait, oui.
Ouais.
Il faut dire qu'au départ, elle était assez faible aussi, donc...
Alors, on peut imaginer qu'on arrive au monde avec, on va visualiser un vase, avec un vase plein de confiance, et que ce vase se vide plus ou moins rapidement en fonction des événements, des situations que l'on vit, et de l'environnement dans lequel on est né.
Oui, tout à fait, oui. Oui, oui.
D'accord, alors toi, ce vase-là, il n'était pas déjà trop plein à la naissance, c'est ça ?
Je pense qu'à la naissance, oui, on a ce capital confiance, capital santé, et que c'est l'éducation, le milieu dans lequel on va vivre, bon, puis une part quand même d'inné, de génétique, qui fait qu'on a un certain type de tempérament, de caractère. Donc moi, j'étais plutôt timide, une enfant timide, mais aussi avec une éducation, comme ça se faisait... dans les années 60.
Alors, c'est-à-dire
assez strict, avec un père autoritaire, mais une mère maman poule, on va dire. Donc, à la fois avec ce cocon, cette douceur, mais aussi avec des règles imposées et pas trop de chaleur du côté paternel, quoi.
D'accord.
Donc, un capital confiance qui a peut-être été bridé, j'en sais rien, mais bon, qui s'est fait comme ça. Hein,
Tu m'as dit que ton père était plutôt quelqu'un de pessimiste et qui ne faisait pas beaucoup de compliments.
Voilà, oui, les compliments, on ne recevait pas beaucoup dans la famille.
Ouais, tu te souviens d'ailleurs de ton bac?
Le bac, oui, je l'ai pas eu du premier coup, mais enfin, j'ai eu le rattrapage, donc j'étais assez contente, mais finalement, ça n'a pas été un événement si important que ça. C'était normal d'avoir son bac.
Tu te souviens très bien que le père de ta voisine qui avait eu son bac en avait parlé à tout le monde.
Oui, tout à fait. Lui, il a fait la fête.
Bon. Ouais. Et chez toi, il n'y a rien
chez
eu.
Chez nous, on n'a rien fait, quoi. Donc voilà, c'est un peu ce contexte où, pour réussir, il faut travailler, il faut souffrir, il faut toujours, comment dire. Être toujours dans l'effort,
transpirer.
Et puis on est récompensé que quand on a fait des efforts. Bon, c'est cette culture dans laquelle j'ai un peu baigné, quoi.
D'accord. Et tu parlais de souffrance. Tu souffres de ce manque de valorisation. Tu en as conscience déjà adolescente ou jeune adulte que.
Oui, quand j'étais ado, même jusqu'à 18 ans. Oui, j'avais pas vraiment de repères. J'étais dans la ligne du travail. Voilà, j'ai beaucoup travaillé pour faire mon bac, pour avoir mon bac. Oui. J'étais tout le temps de travail. Bon, des plaisirs, il y en avait, évidemment, mais... C'était toujours ce contexte, oui, il faut souffrir pour y arriver, quoi.
Oui.
Il faut travailler dur pour y arriver.
D'accord.
Et sans vraiment de retour positif de la part des parents, quoi. Puisqu'ils étaient eux-mêmes dans ce contexte, pour réussir, il faut travailler dur et les plaisirs, ça ne vient que... Ça vient jamais d'ailleurs.
Oui, c'est bon. Sûr que pour un enfant, quand on se sent pas valorisé par ses parents, ça n'aide pas à avoir confiance en soi,
voilà, oui,
une image positive de soi.
Tout à fait, ça ne renforce pas cette confiance, la structure de la personne, la construction aussi de la personnalité dans cette confiance, cette capacité à affronter aussi la vie, à affronter les gens.
Et alors, tu nous parlais aussi de ta maman qui était très mère poule, hein, oui. de ce que j'ai compris. Une maman très couvante comme ça, est-ce que ça permet d'avoir confiance en soi?
Et a priori, non.
Oui. Ouais, parce qu'elle faisait à ta place ou qu'est-ce qui se passait?
On était très libre hein, quand on était enfant, on partait où on voulait. Bon, de temps en temps, il fallait que je m'occupe de ma petite sœur, faire quelques tâches, mais on était très libre. Voilà, c'était tout à fait, comment dire, doux et agréable. Mm-hmm. Mais... voilà, je pense qu'elle nous a pas suffisamment donné les moyens d'être autonome, quoi.
D'accord. Donc c'est une histoire d'autonomie.
Elle préparait mes vêtements le matin sur le lit, enfin le dimanche soir, comme ça. Mm-hmm. Je savais ce que je devais mettre pour la semaine.
Oui. Voilà.
Donc, c'est ces petites choses comme ça, quoi. Donc
d'accord.
Elle prenait tout en charge, puisque c'était son travail de s'occuper de nous.
Mm-hmm, mm-hmm.
Et peut-être un peu trop, je sais pas.
D'accord.
Ou elle a fait comme elle le sentait.
Oui. Quand on se sent pas autonome enfant, on n'a pas l'occasion, du coup, de se tester et de voir si effectivement on arrive à faire les choses.
On peut se tester quand même, mais quoi, on va faire des bêtises, on va se tester en cachette des parents, je dirais.
Mm-hmm.
Voilà. Bon, après, on se teste parce que moi, j'avais travaillé un petit peu aussi quand même, étant adolescente, je ramassais les fruits.
Ouais.
Donc ça, c'était des bonnes expériences aussi pour apprendre la vie en société parmi les autres, le travail, la discipline, les ordres. Bon, ça, je connaissais, mais voilà.
Donc, d'accord.
Bon. C'est
à la fin de cette adolescence, tu as quelle image de toi?
Eh ben, pas forcément de quelqu'un de très fort, mais en même temps, j'ai la volonté, quoi.
Ouais.
Donc, je quitte Montauban pour Toulouse pour continuer mes études.
Mm-hmm. Tu avais envie de faire du tourisme?
Oui, je voulais faire un BTS tourisme, mais bon, n'ayant pas eu de bonnes notes au bac. Et puis c'était à Tarbes, alors ça me faisait un peu loin. Bon, les parents aussi disaient c'est un peu loin. Bon. Voilà, bon, je suis restée à côté, à Toulouse.
D'accord, alors ça veut dire que tu as choisi des études un peu par dépit, par défaut?
Oui, mais à 18 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire.
Oui, comme beaucoup. Hein.
Comme beaucoup.
Ouais.
Donc j'ai dit, je vais aller à l'université. J'aimais bien étudier, apprendre.
Et là, tes parents, ils sont fiers de toi quand tu vas à l'université?
Oh, ma mère m'a dit, t'as pas eu ton bac du premier coup, donc ça m'étonnerait que tu réussisses ta première année.
Oh là, ça plombe.
Donc ça plombe un peu. Donc, oui. Mais moi, par défi, allez, j'ai dit, j'y vais, puis je vais voir. Je vais y arriver. Et j'ai eu, là, pour le coup, je l'ai eu au mois de juin, mon diplôme. Enfin, la première année de DEUG.
Bon, alors pour illustrer cette période de ta vie, cette première période, tu as choisi d'écouter Charles Trenet,
oui.
Douce France.
Voilà, pour refléter un peu cette période quand même douce, et puis où on avait quand même une semaine de vacances, on allait voyager au travers de la France,
d'accord.
Dans les villages PTT, donc c'est de bons souvenirs, quoi. Puis avec mon frère, bon. On se disputait tout le temps, mais on s'aimait bien. Ma petite sœur, bon, voilà, on était un petit noyau, comme ça. Voilà, donc cette chanson m'évoquait un peu la nostalgie de ces périodes douces.
On partage ça ensemble.
revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.
Charles Trenet, Douce France, une chanson choisie par Catherine Chaubet qui est avec moi aujourd'hui sur le plateau d'Ondes Positives. Alors Catherine, à l'écoute de la chanson, on sent bien cette enfance, cette éducation traditionnelle dans des valeurs de bien, de mal, de travail.
Oui, oui, surtout de travail, oui, d'obéissance, de travail, mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, de liberté, voilà, c'est l'insouciance.
D'insouciance, oui.
Les traditions, effectivement, chez les grands-parents qui étaient agriculteurs des deux côtés.
Mm-hmm. Bon, on comprend bien que pendant aussi, cette enfance et cette adolescence, déjà ton vase de confiance s'est un peu vidé, hein. Et puis, on arrive à la vie d'adulte. Et au mariage.
Oui, voilà.
Tu te maries et puis il s'avère avec le temps que ton mari est un manipulateur.
Tout à fait, oui. Donc je l'avais rencontré dans le cadre de mes études à l'université. Mm-hmm. Lui préparait une thèse en ressources humaines et moi je faisais ma maîtrise en gestion. Et voilà, bon... s'entendait bien, s'est mis on a vécu un peu ensemble. Ensuite, moi, j'ai trouvé du travail sur Paris. Et lui, comme il n'était pas français, devait rentrer dans son pays pour faire le service. Mm-hmm. Et à son retour, voilà, moi, j'étais installée sur Paris. Et puis, on a décidé de se marier, voilà. Et puis, au début, tout allait bien, tout beau, tout nouveau. Et puis, tout allait bien. On avait un boulot, etc., voilà. Et puis petit à petit, à force, ça s'est dégradé. Il a faisait des crises, tout ça. Et moi, je comprenais pas trop. Bon, je comprenais un peu par son histoire, etc. Mais bon, ça s'est poursuivi quand même un bon nombre d'années.
Comment tu t'es rendu compte que tu étais sous l'emprise de ce manipulateur?
En fait, voilà, les manipulateurs, ils vous éloignent de vos amis. Mm-hmm. Donc effectivement, j'avais pas d'amis. Quand j'en trouvais, que je voulais les inviter, il y avait toujours une bonne raison pour pas le faire. Ou ils me disaient, si j'arrivais à faire ça à l'extérieur, hein, oh mais c'est pas bon pour toi, c'est pas... Voilà, la relation n'était pas bonne, alors mm-hmm. que moi, ça me convenait. Donc petite chose comme ça, et puis des prétextes pour pas aller voir la famille, ou... Des disputes, en fait.
Ouais, avec tes parents ou ton entourage proche.
Couper les liens avec mes parents, me demander de choisir entre lui ou ma famille. Bon, c'est mm-hmm. assez dur.
Donc tu t'es retrouvée isolée.
Petit à petit, voilà.
Ouais.
Donc je m'éclatais bien au travail, par contre. Mais il y avait ce sentiment quand même de malaise, de déséquilibre, quelque chose qui faisait que je me vidais petit à petit de cette confiance que mm-hmm. petite confiance que j'avais.
Oui.
Et de mon énergie peut-être petit à petit aussi puisque le travail m'en demandait pas mal. J'arrivais quand même à trouver les ressources mes loisirs. Bon, j'avais un chien, donc je faisais des promenades, je faisais du sport.
C'était ce qui t'aidait à tenir.
Ça m'a aidé à tenir, voilà. Mm-hmm.
Vu de l'extérieur, on se demande toujours comment c'est possible de tenir autant de temps, parce que tu vas rester quasiment 30 ans avec cette personne-là,
oui.
avec une personne qui piétine de la sorte l'estime de soi, l'image positive qu'on a de soi.
Ah ben, c'est un travail de sape, oui, et de longue haleine, quoi.
Mm-hmm.
Puisque la personne qui manipule, en fait, elle connaît des variations en fait dans son comportement. Donc
oui.
il y a des périodes où c'est très très bien, où on va faire des choses ensemble, ça va bien se passer. Puis à un moment donné, il va y avoir une crise, mm-hmm. ça va plus. Et puis ça se perpétue ces situations. Bon, on commence à douter de soi. Rien ne va, ce qu'on fait, ça va pas bien.
T'en étais arrivé à avoir quelle image de toi?
Donc à la fin, c'est comme si j'étais au fond d'un trou. J'avais plus d'image, j'osais même plus toucher. Je faisais plus rien, de peur de casser quelque chose ou de faire quelque chose qui n'aille pas bien, quoi.
Mmh, mmh.
Parce que voilà.
Donc incapable, quoi. Incapable.
Voilà, ouais, je faisais plus rien.
D'accord. Et tu nous
plus
disais.
Plus d'initiative, plus de décision. J'étais comme, je ne sais pas si vous savez, les araignées pour attraper leur proie, elles les enveloppent de la toile petit à petit,
mm-hmm.
pour attraper les lézards notamment, elles enveloppent la tête jusqu'à ce que le lézard meure d'asphyxie, quoi. Donc
ouais.
c'était un peu ça, quoi.
Toi, tu étais le lézard asphyxié, quoi.
Voilà, mm-hmm. pris dans des mailles, et puis... Et bien après, on se replie sur soi-même et évidemment, on n'a plus de confiance en soi, on n'ose plus rien faire, quoi.
Je
même
comprends.
On partait en vacances, j'appréciais plus rien, quoi.
Mm-hmm. Et tu nous disais qu'en fait, tu te raccrochais au travail. Ta vie professionnelle
fait,
était
oui.
un endroit encore où tu arrivais à trouver
un peu
de réconfort, on va dire, ou un peu d'estime de toi.
Voilà, oui, parce qu'au travail, il fallait prendre des décisions,
ouais.
il fallait quand même gérer. Donc là, oui, mais ça avait quand même des répercussions, hein, ça c'est sûr.
Mm-hmm. Jusqu'au moment où, dans ton entreprise, ça va plus, ils ont des problèmes économiques, hein, de ce que j'ai compris.
C'est la patronne de l'entreprise qui a décidé de vendre, puisque effectivement, au niveau du marché des sociétés de services informatiques, la tendance était à la concentration. Et nous étions une société familiale de 200 personnes. Et donc ma patronne, qui avait de bonnes qualités de visionnaire, elle voyait qu'on n'allait pas tenir face à la concurrence des grosses sociétés de services,
hein,
de 1000 à 2000 personnes. Donc elle a décidé de changer de vie et de vendre son entreprise. Donc nous avons été rachetés.
Oui, et dans ce cadre-là, ton poste a été supprimé.
Voilà, les postes de tous les administratifs du siège à Paris ont été supprimés, et le mien parmi les derniers, quoi.
D'accord. Donc, ton travail auquel tu te raccrochais,
voilà,
tu ne l'as plus.
Il a été aussi vidé de sa substance, puisque toutes mes tâches ont été réparties dans les différentes succursales de l'entreprise. Mmh. Donc, il ne me restait plus rien.
Oui, tu te retrouves sans emploi et dans la toile de ton mari
voilà.
manipulateur.
Donc là, il y avait vraiment... Oui, c'était une période de doute aussi qui avait encore renforcé ce manque de confiance qui a rajouté au pessimisme et comment dire cette ambiance assez triste, assez difficile à vivre, voilà où je
on peut
le
dire
noir,
que
le gris devenait noir quoi.
Ouais. On peut dire qu'en 2009 tu t'es en grande dépression.
Voilà, donc le licenciement s'est fait en décembre 2008.
Ouais.
Donc ça a duré un an et demi quand même de la reprise de toutes les fonctions de l'entreprise qui avait été vendue. Mmh. Et oui, donc là, au moment où je suis sortie du Pôle emploi, là j'ai pris un coup sur la tête, quoi.
Ouais.
Là je me suis dit, là t'es au chômage, bon qu'est-ce que tu vas faire ?
Et pourtant ça va s'avérer positif parce que c'est ce qui va te permettre de prendre conscience de la situation dans laquelle tu te trouves.
Tout à fait, il y avait déjà eu le travail depuis un petit moment déjà, hein. C'est sur la durée aussi, puisque je m'étais déjà intéressée en m'abonnant au magazine psychologie, sans faire de pub,
oui.
Pour trouver des réponses à ma situation, en essayant de m'informer comme je pouvais.
Mm-hmm.
Et donc, je m'étais abonnée en 2004, donc voilà, ça a pris du temps, mais petit à petit, ben, aussi dans le niveau du cerveau, ben, c'est des informations qui sont rentrées, que j'avais conservées, et qui m'ont servi à ce moment-là, quoi. Qui
D'accord.
m'ont aidé et qui m'ont permis, effectivement, de voir que j'étais sous l'emprise d'une personne manipulatrice.
Ok. Alors, puisque tu es passée par là, quel conseil tu peux donner aux personnes qui se sentent actuellement sous l'emprise d'un manipulateur ? Comment faire ?
Ah, les conseils, ben déjà bien s'assurer que c'est pas soi, mais que c'est bien l'autre.
Mm-hmm.
Et pour ça, moi, je pratiquais des tests, en fait.
Oui.
Je me disais, mais c'est pas possible que ce soit toujours moi, donc qui ait tort, qui fait mal.
Qui soit défaillante.
Qui soit tout le temps défaillante, voilà.
Mm-hmm.
Donc, je sais pas. Donc, après, j'avais trouvé des possibilités de faire des tests.
Donc, ça veut dire que tu
des
provoquais
des situations
ouais.
pour mm-hmm. vérifier le comportement. Donc, c'est vrai que là, c'est un peu rigolo aussi. Mais en même temps, c'est pas drôle parce qu'on se rend compte qu'on est avec quelqu'un qu'on connaît pas finalement, avec
oui.
un étranger. Donc, on faisait des petits tests, faire comme lui, en fait. Proposer des choses et puis après, ne pas les tenir ou bien esquiver, voilà, dire bon ben on verra plus tard sur des propositions, jouer l'indifférence, faire être indifférente.
D'accord. Donc
pour
c'est
essayer de déstabiliser la personne, arrêter de dire oui. Bon, après, dire non, c'est pas évident aussi quand on n'est pas préparé.
Oui.
Mais j'ai des petits tests, j'ai commencé comme ça.
D'accord, faire des tests pour voir si c'est vraiment l'autre qui dysfonctionne,
voilà. ou si c'est soi-même.
D'accord.
Donc, arrêter de se dire il y a que moi, si je prends tout sur moi, mais je vais mettre un peu sur l'autre, quoi.
Et puis après, une fois qu'on a la confirmation que c'est bien l'autre qui dysfonctionne, qui est en train de nous manipuler.
Mais là, on se dit, mais là, il faut que ça change, c'est pas
oui.
possible, quoi. Sinon,
ouais.
on va y perdre sa vie ou ses plumes. Donc,
toi, t'as fait quoi?
Un peu. Donc, moi, j'ai entamé une psychothérapie.
Mm-hmm.
Ça m'a aidé ben, face à la reconversion professionnelle aussi, pour aborder ce changement de vie.
Oui.
Et puis, pour affronter mon mari, donc, savoir dire non.
Mm-hmm.
Et bien recréer mon espace, ma bulle, recréer mes désirs, parce que je n'avais plus rien, je n'avais plus cet espace, cette personnalité, je ne l'avais plus.
Ouais,
quoi.
Tu savais plus ce que tu aimais,
je savais plus
quels
ce que
étaient
j'aimais,
tes besoins.
De quoi j'avais besoin, mais de quoi j'avais envie, il n'y avait plus rien. Il restait une petite chose quand même, mais bon.
D'accord.
Donc j'ai entamé cette psychothérapie, ouais.
Ouais.
J'ai fait 17 séances en tout. Sur à peu près 6 mois, quoi.
Et c'est ce qui te permet de sortir de cette prison.
Et de prendre, oui, la décision de quitter mon mari.
Mm-hmm.
Et de quitter la région parisienne.
D'accord.
Voilà, donc, de me former, commencer une formation de shiatsu.
Alors, puisque tu parles de région parisienne, ça me fait penser au trafic,
oui, au
de
trafic,
la région parisienne.
Voilà. Pendant 23 ans.
Et c'est donc un super lancement pour ton deuxième choix musical, Ma place dans le trafic, Francis Cabrel.
Le jour se lève à peine, je suis déjà debout, Et déjà je promène une lame sur mes joues. Et le café qui fume, l'ascenseur qui m'attend et le moteur que j'allume m'aident à prendre lentement, prendre ma place dans le trafic. À prendre ma place dans le trafic. J'aimerais que quelqu'un vienne et me délivre, mais celui que je viens de choisir m'a donné juste assez pour survivre et trop peu pour m'enfuir. Et je reste prisonnier de mes promesses à tous ces marchands de tapis qui me font dormir sur de la laine épaisse et qui m'obligent au bout de chaque nuit à prendre ma place dans le trafic. À prendre ma place dans le trafic. Et quand je veux parler à personne, quand j'ai le blues, je vais décrocher mon téléphone et je fais le 12. Je suis un mutant, un nouvel homme. Je ne possède même pas mes désirs. Je me parfume au oxyde de carbone et j'ai peur de savoir comment je vais finir. Je regarde s'éloigner les rebelles. Je me sens à l'étroit dans ma peau, mais j'ai juré sur la loi des échelles. Si un jour je veux mourir tout en haut, que je prenne ma place dans le trafic. Que je prenne ma place dans le trafic. Et quand je veux parler à personne, quand j'ai le blues, je vais décrocher mon téléphone et je fais le 12. Bah, quoi que je dise et quoi que je fasse, il faut que passe les voiture noire. Je suis un mutant, un nouvel homme. Je ne possède même pas mes désirs. Je me parfume au toxine de carbone. J'ai peur de savoir comment je vais finir. Il y a tellement de choses graves se passe dans mes rues que déjà mes enfants savent qu'il faudra qu'ils s'habituent à prendre ma place dans le trafic. À prendre ma place dans le trafic. Ma place dans le trafic. Ma place dans le trafic.
Francis Cabrel, Ma place dans le trafic, choisi par Catherine Chaubet. Alors Catherine, c'est la période noire là, hein, le trafic.
Oui. Et oui, c'est le trafic. Oui, je prenais ma voiture, ben, comme dans la chanson, pour prendre ma place sur l'autoroute A6, dans le flot des voitures.
Uh-huh.
Et puis au bout d'une heure trente, arrivé à place de la Nation, au travail.
Et les derniers temps, tu m'as dit que tu pleurais en allant au travail.
Eh oui, parce que oui, suite au rachat, là, c'est devenu de plus en plus compliqué. Je sentais voilà, que mon travail, j'avais délégué toutes les tâches à d'autres. Mm-hmm. Et moi, il ne me restait plus rien. Au début, j'étais confiante. Bon, mais je vais arriver à trouver du travail, j'ai confiance, mais petit à petit...
Ouais.
J'avais essayé de me repositionner sur l'informatique, puisqu'une directrice de projet là, voulait me recruter, en quelque sorte. Mais bon, le projet n'a pas suivi. Bon, on est en période de crise aussi, hein, c'est 2008. Mm-hmm. Les clients, bon, ils avaient moins d'argent. Donc c'était difficile pour les commerciaux d'avoir de nouveaux projets. Donc bon, ça n'a pas marché. Mais... Donc c'est vrai que c'était, j'allais au travail... En reculons, comme on dit, mais en pleurant.
Ouais. Et là, au milieu du noir, alors que le vase de confiance est tout vide, est à zéro, il y a deux choses. Un magazine sur lequel tu tombes qui titre « Changer de vie à 50 ans »
oui.
Et une séance de shiatsu.
Oui, voilà, oui. Donc dans mes recherches, qu'est-ce que j'allais faire dans ma seconde partie de vie.
Mm-hmm.
Eh bien, donc je me suis informée, et puis effectivement, en allant à l'APEC, ou notamment à l'APEC, il y avait un magazine, Comment changer de vie. Et donc ça m'a donné des idées, il y avait des idées de métier, il y avait notamment donc le coach bien-être et management. J'ai dit ça, ça pourrait me convenir, puisque j'ai ce passé de management. Et puis bien-être, ben ça peut s'apprendre, c'était dans les tendances du moment.
Oui.
Donc voilà, j'avais choisi ça, il fallait que je trouve une technique aussi de bien-être. Donc j'ai essayé les massages, la réflexologie, un peu tout, j'ai fait des ateliers,
oui,
découvertes. Et puis c'est le shiatsu en fait qui a été un révélateur quoi, qui m'a beaucoup plu. J'ai donc reçu une séance.
Et tu m'as dit que cette
là,
séance t'a transformé.
Ouais, l'effet a été immédiat. Donc c'est c'est l'effet shiatsu.
Et c'est-à-dire
ça m'a ouvert.
Quand tu dis l'effet
déjà
a été immédiat.
Détendu au niveau corporel, mais aussi au niveau mental, ça m'a ouvert des possibilités. Je me suis sentie, j'ai retrouvé ma confiance, mais je me suis sentie capable de faire prendre les choses en main, de reconstruire quelque chose. Quoi, j'avais pas peur. Et ça s'est fait juste après la séance, quoi.
Le contact, le fait d'être touché, ça participe.
Je pense, ouais. Oui. Parce que c'est vrai que moi, c'est touché, j'avais un peu de mal, quoi.
Ouais. Ça faisait partie de l'isolement, quoi. Quand on se sent isolé, on n'est plus en contact, même physique, avec les autres.
Oui, oui.
D'accord.
Et ce contact physique, en fait, je l'avais. C'est vrai qu'avec les difficultés, avec mes collègues que je voyais partir, ça était revenu sur les derniers moments en entreprise, les derniers 6 mois, en fait. Parce que je voyais mes collègues qui étaient tristes, moi aussi. Bon, il y avait des pleurs, des cris. Passé par pas mal de phases.
Ouais.
Et donc, effectivement, je devais réconforter. Là, j'avais commencé quand même à prendre l'épaule, voilà.
À poser les mains sur d'autres personnes.
Voilà, pour les réconforter, bon.
D'accord.
Parce qu'ils étaient en souffrance, et moi aussi, mais bon. Donc, c'est vrai qu'il y avait eu cette amorce.
D'accord. Et donc, avec ta séance de shiatsu, tu te dis tout de suite, tiens, c'est ça que j'ai envie de faire.
Voilà, tout à fait.
Oui.
J'ai toujours fait de la gymnastique, du sport, donc l'entretien corporel, bon, je sais ce que c'est. Et là, de retrouver, oui, ce contact, j'ai reçu la séance au sol, ça m'a plu, puis cette ambiance japonaise, c'était un nouveau monde aussi, une nouvelle philosophie de vie. Et donc, dans la foulée, je me suis inscrite pour une formation d'essai sur le mois de juin 2009.
Oui.
Voilà, et ça a été le début, en fait, avec ma psychothérapie en parallèle.
De ta reconversion.
Le début de ma reconversion et de ma nouvelle vie.
D'accord. Donc, tu deviens praticienne en shiatsu.
Voilà,
c'est une formation longue, comment ça se passe?
Celle-ci pouvait se faire, je voulais pas la faire trop en longueur. Sinon, c'était 3 ans, en week-end, donc ça m'intéressait pas. Donc, cette école proposait sur 1 an. Ou plus, c'était des modules que l'on pouvait suivre à la carte.
D'accord.
Donc, j'ai rassemblé les modules, donc j'y suis allée sur presque 1 an en tout. Et à la fin, il y avait un mémoire à rédiger, donc il fallait prendre des volontaires, des cobayes, entre guillemets,
oui,
pour tester sa pratique et puis s'entraîner. Donc là, j'ai pris ma psychothérapeute aussi comme cobaye, sa fille. Puis petit à petit, j'ai passé une annonce, j'ai fait des petits cartons que je suis allée déposer à Pôle emploi, un peu partout. J'ai eu un peu de monde pour faire mon mémoire.
D'accord. Donc tu nous disais en début d'émission que le shiatsu consiste en des massages, mais sur des points très particuliers.
Oui, donc même les Japonais ne parlent pas de mot de massage.
Oui.
En France, on n'a pas le droit, nous, d'utiliser ce mot. Il n'y a que les kinés qui peuvent l'utiliser.
Alors comment on dit?
Donc on dit entretien corporel par pression des doigts, des pouces notamment, ou des paumes. Pression donc sur l'ensemble du corps. Donc pour des formules bien-être, détente, mais aussi après des pressions sur des points d'acupuncture.
Oui.
Pour des versions de shiatsu plus thérapeutiques, on va dire.
D'accord.
Voilà, c'est de la pression des pouces, au sens originel.
Oui, voilà. Oui, je comprends. Voilà. Donc tu te formes à cette pratique-là, et puis à la fin de cette formation, tu clôtures par un voyage au Japon.
Voilà, donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Voilà, je me suis trouvé un organisme, pas trop cher.
Oui.
Donc on partait en groupe, mais après on pouvait être libre sur place ou prendre les excursions pour les faire en groupe. Donc j'ai fait la solution mixte, un peu d'excursion avec le groupe et puis des excursions toute seule.
Mm-hmm. Et ce voyage au Japon, il va te servir d'épreuve, on va
voilà,
dire, de
tout
défi.
Tout à fait. Je m'étais mis comme objectif de me débrouiller toute seule et voilà, de plus avoir peur et de mettre faire travailler ma confiance en moi.
Et voilà. Alors toi, Catherine, qui étais ce lézard dans le cocon, pour reprendre l'image, voilà, incapable de faire quoi que ce soit.
De pas bouger, mais là, j'ai déployé.
Te voilà partie au Japon seule.
Mes ailes, mes pattes, voilà.
D'accord. Et alors, ça se passe bien, j'imagine.
Très bien. Uh-huh. Beau souvenir. Oui, oui. Ça s'est très bien passé. Donc j'ai fait des excursions avec le groupe. Bon, c'était beaucoup de jeunes. J'étais la plus ancienne, on va dire. Mm-hmm. Donc j'ai fait des connaissances, notamment avec une jeune femme qui avait 30 ans, Sophie.
Et c'est là que tu vas inverser le processus, alors ?
Voilà, je me suis lâchée, je me suis intégrée au groupe, on a été au restaurant ensemble. Bon. Mm. J'ai pu m'intégrer, puis je faisais des sorties toute seule. J'ai pris le bus toute seule, j'ai discuté avec des Japonais, des mm-hmm. Japonaises, des enfants qui venaient vers moi pour me demander d'où je venais, etc.
Donc tu recrées des relations à l'autre, toi qui étais dans l'isolement,
oui.
Et puis tu remplis à nouveau ton vase de confiance.
Voilà, je vois que la vie, elle est belle, qu'il y a pas beaucoup de choses à découvrir, à voir, à apprendre, donc ça me redonne de l'énergie, du mm-hmm. tonus, de la confiance aussi.
Et une nouvelle image de toi, j'imagine.
Une nouvelle image, oui, puisque voilà.
Tu étais capable de te débrouiller toute seule.
Voilà, je me débrouille, et puis... Je montre, j'ai apporté aux autres, j'ai fait un petit shiatsu à ma copine.
Ouais.
Du moment.
Voilà. D'accord.
J'ai reçu des séances de shiatsu pour vérifier. Mm-hmm. Je suis allée à l'école à Tokyo. Ouais, Tokyo. À la Japan School. Mm-hmm. Shiatsu Japan School, voilà. Ce qui était l'école de notre professeur.
D'accord.
Donc je suis allée voir le shiatsu authentique
et vérifier si ce que tu faisais correspondait.
Ça correspondait bien.
Bon, alors ça va. Alors tu nous as parlé de beaucoup de confiance en soi, mais dans ton message positif de départ, tu nous parlais aussi de retrouver confiance en la vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir confiance en la vie ?
Donc déjà la confiance dans la vie, elle s'assoit sur une confiance en soi. Si on n'a pas confiance mm-hmm. en ce qu'on est, ben qu'est-ce qu'on fait quoi ?
Oui, bien sûr.
Comment avoir confiance en la vie ? Donc il y a cette peut-être première dimension personnelle, je dirais. Mm-hmm. Et après la confiance à la vie, ben c'est savoir que il y a des possibles, qu'on est capable de faire des choses, qu'il y a des choses qui nous sont ouvertes. Mm-hmm. On peut pas savoir tout faire, mais on peut trouver ce qui nous correspond en fait. Donc c'est se dire que on peut réaliser des choses et qu'on a quelque chose à apporter, qu'on a une valeur et que on peut la mettre en œuvre pour.
C'est l'idée que l'on choisit sa vie aussi.
Tout à fait, oui. Qu'est-ce mm-hmm. qu'on veut faire de sa vie
mm-hmm.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, ouais. Qu'est-ce que je vais faire de ma deuxième partie de vie?
D'accord.
Qu'est-ce qui va me correspondre? Qu'est-ce qui va me plaire? Qu'est-ce que je peux apporter?
Donc, si je comprends bien, lorsqu'on a confiance en la vie, on ne se sent plus sur des rails comme ça que l'on subit.
Aussi, oui.
Mais on construit son propre chemin.
Voilà, on construit. Donc, ça veut dire, ben, on peut faire des erreurs, mais c'est pas grave, ça, c'est l'expérience.
Mm-hmm.
Mais on se construit quelque chose. Puis on maîtrise aussi, parce qu'on va choisir.
D'accord.
Là, on n'est plus sous la dépendance de quelqu'un qui décide pour vous.
Mm-hmm.
Quand on est petit, ce sont les enfants. Après, là, moi, c'était... Bon, avec mon mari, je décidais quand même. Mais bon, j'étais un peu prisonnière aussi. Donc
oui.
Là, maintenant, je suis toute seule. Donc, je dois construire de par moi-même et avec ma confiance et ma confiance et mes capacités, quoi.
D'accord.
Avec ce que je suis, ma personnalité.
On revient quand tu dis je construis mon chemin, je me fais confiance. On revient aussi sur une notion d'autonomie dont tu nous parlais pendant ton enfance et ton adolescence. T'avais l'impression d'avoir un peu manqué d'autonomie.
Oui, oui. J'avais la liberté, mais pas l'autonomie, quoi.
Oui.
Si bien que quand je me suis retrouvée toute seule à Toulouse, c'est vrai que bon, j'étais un peu. Je me suis dit, bon, ça va être un peu dur.
Oui.
Mais bon, ça a été, quoi. Ça s'est bien passé.
Oui.
Oui, oui, tout à fait.
Donc aujourd'hui, j'en déduis que autonome a remplacé incapable.
Voilà. Autonome, capable, capable aussi.
Oui. Oui.
Et puis, libre surtout, voilà. C'est aussi ça, hein, que j'ai acquis, la liberté.
Mm-hmm. En préparant l'émission, tu m'as aussi dit quelque chose de très intéressant. J'attendais de la reconnaissance des autres, maintenant je me la donne à moi-même.
Oui, 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 quand on manque de confiance en soi, on attend des autres.
Mm-hmm.
Et les autres ne l'expriment pas forcément. Ils vous reconnaissent tel que vous êtes, mais si vous ne vous mettez pas en avant, si... Bon, ben, il faut... Les autres, voilà, ils vont pas aller venir vous dire tu es formidable, machin. Il faut qu'il y ait quelques occasions, oui. Mais bon, c'est pas en permanence. Mais quand on manque de confiance en soi, c'est vrai qu'on attend en permanence des autres, quoi, des retours. Comme quand on est enfant, d'ailleurs, on attend, on attend l'amour, l'amour des parents, les récompenses, les félicitations. Donc ça, effectivement, c'est la psychothérapie aussi qui m'a aidé à me dire, voilà, c'est toi, et puis tu fais comme tu penses, comme tu le sens, et puis tu vas plaire à certains et tu vas pas plaire à d'autres. Mais ça, tu peux pas, comment dire, attendre tout le temps des autres, c'est pas possible. Sinon, tu sais pas toi, quoi, sinon tu es dans la dépendance.
Oui. En termes de reconnaissance, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même,
voilà.
En gros.
Tout à fait. Donc, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est parce que c'est se reconnaître soi tel que l'on est, quoi. Et puis se dire que ben, finalement, on n'est pas si mal que ça.
Mm-hmm. Alors, on comprend que maintenant, tu es dans une nouvelle vie. Hein?
Tout à fait.
Alors, on va écouter Étienne Dao qui chante le premier jour du reste de ta vie, alors.
Voilà.
Un matin comme tous les autres, un nouveau pari. Rechercher un peu de magie dans cette inertie morose. Clopin clopant sous la pluie, jouer le rôle de sa vie. Puis un soir le rideau tombe, c'est pareil pour tout le monde. Rester debout mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus essentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui, et le premier jour du reste de ta vie plus confidentiel. Pourquoi vouloir toujours plus beau, plus haut, et vouloir décrocher la lune quand on a les étoiles? Quand les certitudes s'effondrent en quelques secondes, sache que du berceau à la tombe, c'est dur pour tout le monde. Rester debout mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus confidentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui, et le premier jour du reste de ta vie c'est providentiel. et ses envies les plus essentielles. Tu peux exploser aujourd'hui et le premier jour du reste de ta vie. Mon accidentelle. Oui, tout peut changer aujourd'hui et le premier jour du reste de ta vie. Plus confidentiel.
Étienne Dao, le premier jour du reste de ma vie. J'adore cette chanson choisie par Catherine Chaubet pour illustrer ta nouvelle vie.
Tout à fait, oui. Ouais. Elle reflète bien ce changement et que, comme il dit dans la chanson, ce n'est pas facile, mais voilà, il y a de l'espoir, il y a de la vie, il y a de la volonté. Et que la vie nous apporte tous les jours son lot de à la fois de difficultés mais aussi de joie et de bonheur quoi.
Alors on sent maintenant que tu es sur ton chemin, que tu construis pas à pas comme tu nous disais tout à l'heure, dans ta liberté, dans ton autonomie. Et pourtant, comme tu le dis à l'instant, c'est pas facile tous les jours.
Et non.
Donc tu as divorcé.
Voilà,
il y a 2 ans.
J'ai divorcé, oui.
Oui.
Enfin, le divorce officiel, hein, puisque j'avais quitté mon mari en 2010. Mais officiellement, ça a mis du temps. Bon, c'est des périodes aussi un peu difficiles. Bon.
Et qu'est-ce qui s'est passé après le divorce?
J'ai quitté mon mari après ma formation. Et après mon voyage au Japon, je suis revenue ici, chez mes parents, dans le petit cocon familial.
Oui.
Et puis... me suis installée chez eux pour faire la transition. Et j'ai commencé donc mon activité de shiatsuki. Et puis, j'ai acheté une petite maison à Kamsas.
C'est là où tu reçois aujourd'hui tes patients?
Installée, voilà. Et pour illustrer que c'est pas facile, c'est un chemin, ça prend du temps, rien ne se fait, les divorces, ça se règle pas du jour au lendemain, hein, ça a duré entre 2010 et 2013, voilà.
Ouais, bien sûr.
2 ans et demi, à peu près. Voilà. Donc, mais petit à petit, on avance, il y a des étapes, des marqueurs, voilà. Donc, il y a eu début 2013 ce divorce qui s'est bien passé finalement. Et après, l'achat de la maison, réinstallation. Et puis, fin 2013, effectivement, j'ai fait une chute. Enfin, en travaillant sur ma maison, je suis tombée de l'échelle. Je me suis cassé le col du fémur.
Oui.
Donc là, est-ce que c'est un signe aussi que, rien n'est facile de... Est-ce que c'est des
comment
mémoires,
tu l'as interprété?
Est-ce que c'est des mémoires anciennes qui sont encore là? Est-ce que c'était encore un marqueur pour me dire il faut que tu sois encore plus autonome, moins dépendante, que je me débarrasse de certaines tendances à me culpabiliser?
Ouais, parce qu'en fait symboliquement au moment où tu te mets vraiment debout, tu tombes
je retombe, quoi. Donc est-ce que
D'accord.
Que c'était pour me dire, il y a encore du travail à faire, il y a des efforts, tout n'est pas encore résolu, t'as encore besoin de quelque chose de neuf. Donc là, maintenant, j'ai une nouvelle os, on va dire.
Ouais. Et tu t'es remise de cette fracture.
Oui, tout à fait. Après, ça se travaille toujours, faut remuscler, rééduquer.
Oui.
Et puis, je pense que,
ça fait partie
comme
du
un
chemin.
Message et ça fait partie du chemin, de reconquérir cette autonomie, cette liberté. Et d'avoir aussi, de reconstruire son corps quelque part. Je sais pas, donc. De redémarrer sur des bases nouvelles.
Ouais.
Sachant que les hanches représentent la stabilité dans le corps humain. Elles sont là, c'est l'articulation charnière entre les jambes et le reste du corps. Donc, les jambes aident à avancer, la tête pince et les bras agissent et les jambes avancent.
Ouais.
Donc, voilà.
Bon, alors donc maintenant que tu as un nouvel os,
voilà, je resculpte
tout devrait bien
mon
fonctionner.
Corps, donc c'est peut-être une bonne chose aussi.
Okay.
Donc il faut se dire que rien n'est anodin, même les accidents qui nous arrivent, les péripéties, tout est facteur d'avancement dans la vie, quoi, de construction ou de continuation de notre chemin sur cette terre et de ça donne aussi à réfléchir sur pourquoi on est là, quel sens donner à sa vie aussi. Donc ça, ce sont mes interrogations aussi du moment.
Eh bien, merci beaucoup de les partager avec nous, Catherine.
Et voilà, il faut pas se décourager, voilà, la vie est belle, c'est un cadeau merveilleux, comme disaient les bouddhistes, et il y a toujours des occasions de faire de nouvelles rencontres et de s'occuper de soi et de... Voilà, découvrir de nouvelles choses.
Justement, pour les personnes qui sont intéressées par le shiatsu et puis tout simplement qui ont envie de prendre contact avec toi pour partager tous ces messages, où est-ce qu'elles peuvent te joindre ?
Donc, le cabinet est basé à Kamsas, 274 route d'Auch.
Oui.
C'est à côté du village. Le téléphone, c'est le 05 63 30 77 02. Et sur mon mobile, 06 23 69 99 34. J'ai aussi un site internet, catherine-shiatsuki.fr.
D'accord, et on reprendra toutes ces coordonnées sur le podcast de l'émission. Merci beaucoup Catherine pour ton témoignage, pour tes messages positifs.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Et puis je te souhaite bien maintenant un vase de confiance toujours bien rempli.
Oui, merci beaucoup.
Et à vous aussi, chers auditeurs, je vous souhaite ce vase de confiance toujours bien rempli. D'ailleurs, continuez à écouter Ondes Positives parce que ça aide à remplir ce vase. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée samedi à 21h et que vous pouvez la trouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique Les émissions, émissions Ondes Positives. Et puis, si vous voulez venir à votre tour témoigner au micro et donner votre message positif, contactez-moi par mail dorothée.alio@hotmail.com ou sur la page Facebook de l'émission. Je vous souhaite une belle semaine positive et à mardi prochain.
C'est ça qui est bon.
CFM.
L'esprit rock.